Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous.
Je voulais ce sentiment d'être un escargot, que où qu'on soit, quoi qu'il arrive, on ait toujours notre maison, qui soit une base, qui rassure nos enfants, qu'on puisse avoir leurs jouets, on puisse avoir des livres, on puisse avoir un environnement rassurant pour eux comme pour moi. Ensuite, pourquoi le camion ? Parce qu'on n'est pas du tout marin. Donc déjà, le bateau n'a jamais été une option. Et qu'on avait envie d'être nomade, en revanche. On voulait bouger, on voulait aller à la découverte de pays, de cultures, de paysages. On voulait des rencontres diverses. On voulait la liberté que si on n'est pas bien quelque part, on reste qu'une journée. Si on est très bien, on reste 8 jours. Donc voilà, on a construit ce camion vraiment dans l'esprit que c'est notre maison.
Dorothée ne voyage pas, elle vit ailleurs. Après 40 ans sur des rails, un job qui roule, un appart et une vie parisienne classique, elle rencontre l'homme de sa vie. Et ensemble, ils décident qu'ils changeront de quotidien, un jour. Après 2 kids et des mois de préparation, ils font le grand saut et prennent la route de l'Afrique en passant par l'Europe au volant d'un poids lourd super pimpé. J'ai eu la chance de profiter de l'un de ses passages éclairs en France pour lui poser toutes mes questions. Zimbabwe, Namibie, Botswana, Tanzanie, Dorothée et sa troupe s'arrêtent selon leurs envies. Un mois par-ci, 6 mois par-là, sans aucune date de retour, mais avec 3 heures d'école tous les matins. Elle nous raconte comment on prépare une aventure si dingue, cette vie si particulière au volant de son camion XXL, ce mode de vie pas comme les autres, l'éducation de ses enfants, la routine qu'elle s'impose pour garder les pieds sur terre, et cette vie nomade qu'ils se construisent très loin de la civilisation. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Hello Dorothée.
Bonjour Marie.
Bon, Dorothée, tu as la vie de mes rêves, donc je ne vais pas m'arrêter de te poser des questions. Et je suis trop contente qu'on ait pu se catcher au milieu de ton voyage, enfin de ta vie de voyageuse incroyable. Est-ce que tu peux déjà te présenter ?
Bien sûr. Donc je m'appelle Dorothée, j'ai 48 ans, j'ai un mari et 2 enfants, Gustave, 9 ans, et Edgar, 5 ans.
Qu'est-ce que tu fais, Dorothée ?
Je
voyage. De tes journées ?
Mes journées, elles sont très différentes. En voyage, on vit depuis bientôt 2 ans dans un camion qui est en ce moment en Afrique.
Comment on part comme ça sur la route ? Elle ressemblait à quoi ta vie avant ?
Elle était très classique, mais toujours orientée autour du voyage, puisqu'on voyageait déjà énormément. On était parisiens, on travaillait tous les deux, nos enfants étaient à l'école, rien d'extraordinaire. Mais toutes les vacances, on s'organisait pour s'échapper. Tous les étés, on partait au moins 4 ou 5 semaines en road trip, dans divers pays du monde. Donc voilà, le voyage a toujours été très présent.
Et comment un jour on se dit qu'on va vraiment partir et qu'on va tout lâcher ?
Nous, on se l'est dit il y a très longtemps, puisqu'on se l'est dit il y a 10 ans quand on s'est rencontrés. Très rapidement, on a dit un jour, on changera de vie. Et puis pendant 10 ans, on a construit ce changement de vie. On s'est donné les moyens financièrement de pouvoir le réaliser. Et on a concrètement construit ce camion, ce qui a quand même été un process de 2 ans et demi, donc ça se fait pas du jour au lendemain non plus.
Mais donc déjà, tu as fait le choix de le faire en camion, parce que tu aurais pu dire on change de vie, en fait on s'installe au Mozambique dans une maison de pêcheur, ou bien on va vendre des perles à Rio. En fait, comment tu as fait le choix de ce tour avec cet énorme camion ? pas énorme. Je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça. Déjà, comment on choisit de s'acheter un camion comme ça et de faire ce trip-là?
Alors nous, il y avait plusieurs choses. On voulait, enfin moi en tout cas, je voulais ce sentiment d'être un escargot, que où qu'on soit, quoi qu'il arrive, on ait toujours notre maison, qui soit une base, qui rassure nos enfants, qu'on puisse avoir leurs jouets, on puisse avoir des livres, on puisse avoir un environnement rassurant pour eux comme pour moi. Ensuite, pourquoi le camion? Parce qu'on n'est pas du tout marin. Donc déjà, le bateau n'a jamais
très
été une option.
Réponse.
Et qu'on avait envie d'être nomade, en revanche. On voulait bouger, on voulait aller à la découverte de pays, de cultures, de paysages. On voulait des rencontres diverses. On voulait la liberté que si on n'est pas bien quelque part, on reste qu'une journée. Si on est très bien, on reste 8 jours. Donc voilà, on a construit ce camion vraiment dans l'esprit que c'est notre maison.
Alors comment on construit un camion comme ça? On va chez qui?
Ben, nous, on est très fiers parce qu'on l'a fait construire en France. Les Allemands, les Autrichiens sont très connus pour construire des overlanding trucks, comme ils disent. Nous, on était en France, à côté de Lyon, chez 3C Cartier Brisebras, qui a ces deux sociétés distinctes qui ont un partenariat et qui construisent des camions. Donc, on a acheté un châssis et à partir de là, on a fait construire une cellule qui est en carbone Kevlar, donc extrêmement légère, ce qui est important par rapport au poids qu'on met sur le châssis. Et ensuite, on a fait construire l'intérieur par un camping-cariste à Roanne.
Il ressemble à quoi, ton intérieur?
Mon intérieur, ça a été une grosse réflexion. On a passé quasi tout le Covid à réfléchir au plan avec Guillaume, mon mari. C'était très important pour nous et ça paraissait très bizarre pour le constructeur. On voulait absolument avoir 3 espaces. Donc, il y a l'espace des enfants, il y a l'espace commun et il y a l'espace des parents. On voulait cette liberté de dire à nos enfants, va dans ta chambre. Ce que beaucoup de camping-caristes ne comprenaient pas en nous disant, non, mais on part un mois, on supporte ses enfants. Mais en fait, nous, c'est vraiment notre maison. Donc, voilà, il fallait qu'il y ait un espace pour que les enfants puissent faire l'école. Donc, dans leur chambre, ils ont une table pour faire l'école. On a un espace commun qui est tout à fait comme un bateau avec un carré et une cuisine en face. Et notre chambre totalement indépendante avec des portes. C'était notre autre gros challenge. Très souvent, il n'y a pas de porte. Nous, on a 3 portes. Chacun peut avoir son espace.
Et tu as décoré un peu à ta sauce et tout?
Complètement. Ça, c'était un autre challenge assez marrant. On voulait vraiment que ça soit notre maison, donc très personnalisé. Et on a mis du papier peint, par exemple. L'aménageur nous disait, non, mais vraiment, on met des murs blancs, c'est mieux. Et nous, on lui disait, mais non, en fait, on veut du papier peint et on veut des papiers peints qu'on aime. Les enfants, nous et le carré commun ont un papier peint différent. On s'est fait faire un tapis puisque l'extérieur est quand même notre autre pièce de vie. Donc, on s'est fait faire un très grand tapis qu'on déroule et ça permet de faire la salle de jeu ou la salle à manger ou le salon en fonction de là où on est et de ce qu'on fait.
Donc, tu décides de faire un camion? Vous faites ce camion, ça dure combien de temps les travaux? Enfin, la création du camion?
On a acheté le châssis en novembre 2019 et le camion a été livré en juillet 2021.
Et pendant ce temps-là, toi, tu dois passer un permis spécial? Parce que j'ai l'impression que ce camion se conduit quand même pas comme une Twingo.
Exactement, c'est un permis poids lourd. Donc, on a tous les deux passé notre permis C, ce qui était une aventure dans l'aventure, on va être honnête. Surtout pour moi, d'ailleurs. Je l'ai passé au mois d'octobre. Je suis arrivée à côté de Roissy, là où était l'école de formation. Il y avait 150 mecs et moi. Donc, je me suis un peu demandé ce que je faisais là. Bon, ça s'est finalement très bien passé. C'était en accéléré. Je l'ai fait en 3 semaines. Et donc, j'ai mon permis poids lourd.
C'est marrant quand même de te retrouver au volant d'un poids lourd, quoi.
Ouais, j'y suis pas souvent parce que mon mari me laisse rarement le volant. Je suis au volant du poids lourd quand lui, il pilote son drone. Et maintenant, il fait même les deux sans que je conduise. Donc, je pilote rarement, mais au cas où, j'ai le permis.
Donc, vous savez que vous voulez un camion. Et après, comment vous dessinez votre itinéraire? Sachant que tu allais récupérer donc ton camion à Lyon.
Mon camion à Lyon en juillet 2021. On était en plein Covid, un peu compliqué, etc. Donc notre camion, il a commencé sa vie au camping du Bois de Boulogne. On a rendu nos bureaux, on a loué une place de camping et le camion est devenu notre bureau pendant quelques mois. Notre itinéraire, on ne peut pas dire qu'on le dessine parce qu'on doit surtout dire qu'on s'adapte à ce qui se passe dans le monde. Notre itinéraire de base était qu'on allait partir de France jusqu'en Afrique du Sud par la côte ouest de l'Afrique. Et puis le Maroc, les frontières du Maroc ont fermé, on n'avait aucune certitude quand elles allaient rouvrir, on était très frustrés, on avait quand même envie de partir. Donc décembre 2021, on a dit, c'est pas grave, on y va. Et donc on est parti Italie, Grèce, Turquie. On a fait 5 mois ces 3 pays-là, dont 3 mois et demi en Turquie, qu'on a absolument adoré pour plein de raisons dont on pourra parler après. On était en Turquie et on s'est dit, où est-ce qu'on va après? Le monde nous était ouvert.
T'avais aucun plan?
Non, aucun plan. Enfin si, on était en Turquie au mois de mai, on s'est dit quelle est la prochaine étape, sachant que le monde serait ouvert, donc les routes seraient ouvertes. Et donc, on a pas mal discuté tous les deux. Les discussions étaient essentiellement Amérique Nord ou Afrique, en se disant qu'Amérique Nord, on voulait aller du Canada à Ushuaïa, ou Afrique. On a penché pour l'Afrique parce qu'on s'est dit que c'était plus approprié par rapport à l'âge des enfants. On s'est aussi dit que si jamais un jour le voyage doit s'arrêter, qu'est-ce qu'on regretterait le plus ? Et on était finalement moins attirés par l'Amérique Nord que par l'Afrique. Donc voilà, on a mis le camion sur un bateau au mois de juin et on a été le récupérer au mois de juillet 2022.
Excuse-moi, je repars un peu en arrière, mais comment t'annonces à tes enfants qu'ils vont tout quitter et qu'on va partir ?
Mais en fait, on ne leur annonce pas parce que ça ne s'est pas fait sous forme d'annonce. Ça s'est fait... Ils ont participé à la construction, ils ont choisi le papier peint de leur chambre. C'est vraiment comme si on construisait une maison. Donc, ils ont vraiment participé à toutes les étapes et on les emmenait. Nous, on était à Lyon tous les mois pendant la construction pour voir l'évolution. On a emmené les garçons plusieurs fois pour qu'ils voient aussi concrètement ce que ça donnait. Et donc, oui, ça n'a pas vraiment été une annonce. Ça a été finalement assez naturel.
Ils étaient contents ?
Ils étaient contents. On a des photos très mignonnes, d'ailleurs, de Gustave qui, quand la première fois qu'il a vu le camion, il était plus petit que la roue. Ils y sont vraiment depuis toujours. Là, on se faisait la réflexion. Edgar va bientôt avoir passé plus de temps sur la route que sédentaire. Donc oui, je crois qu'ils sont très contents. Enfin, en tout cas, ils sont très épanouis dans cette vie.
Et toi, la première fois que tu vois ce camion, ça t'a fait quelque chose aussi ? Cette nouvelle maison, quoi, en fait, cette nouvelle vie ?
Bien sûr, ça nous a fait quelque chose. Ouais, c'était un rêve qui devenait réalité, en fait. On est monté dans le camion. Encore une fois, on avait vu l'évolution de la construction, donc
oui,
on
ne
l'a pas découvert.
Une surprise,
mais c'est la vraie émotion, ça a été les premiers tours de roue. Quand on a quitté l'usine et qu'on est parti, c'était à côté de Roanne. Notre première nuit, c'était, je ne me rappelle même plus du nom du lac, un camping à côté du lac à Roanne. C'était magique. On était tous les quatre et c'était une vraie émotion, cette première nuit dans le camion.
Ça fait combien de mètres carrés, ta cellule de vie, tu sais ?
13, 14.
Ah ouais. C'est quand même bien.
Non, c'est grand. Non, mais c'est grand. Quand on rentre.
C'est plus grand qu'un camping-car, quoi, en fait, pour que
ah
les
oui,
gens
se disent. Ah oui, bien sûr.
À l'intérieur, c'est plus grand qu'un camping-car.
Ça fait le camion, en tout, il fait 9,50 m de long et 4 m de haut. Donc, la vraie différence avec un camping-car, c'est qu'entre guillemets, il y a de la hauteur sous plafond dans le camion quand on s'y promène. Et la cellule d'habitation, si je ne dis pas de bêtises, elle fait à peu près 7,60 m.
Et donc, c'est comment le début de la vie sur la route, alors ? Une fois que l'excitation, je mène du départ est passée, tu as une routine, comment ça s'organise vos journées ?
Sur la route, c'est comme à la maison. On a un rythme, on a une routine. Nous, on fait l'école tous les matins. Donc, on se lève, petit-déj, école. Ça, c'est impossible à changer dans le rythme. Après, le reste des journées, là, varie beaucoup. Soit on va rouler d'un point A à un point B, donc il va y avoir un peu de route. Soit on va être dans une réserve animalière, on va faire des safaris. Soit on va être au bord de la mer, on va faire du kite. Voilà, les après-midi sont très variés, mais les journées sont absolument toujours avec le même rythme. On essaye de garder ce rythme parce qu'on pense que c'est le cadre et le socle pour nos enfants aussi. Et on est très conscient avec mon mari que c'est notre délire de voyager, mais qu'eux, il faut qu'ils aient un peu les mêmes chances que tous les autres enfants dans le monde. Et donc, l'école, c'est vraiment le point sur lequel on est intransigeant avec eux. C'est 6 jours sur 7, 2-3 heures tous les matins. Et donc, ça rythme aussi toute la journée. Enfin, c'est pas discutable. En fait, ils savent que tous les matins, ils vont à l'école où qu'on soit dans le monde. Parce que là, en ce moment, on est en France. Et ben, ils ont école tous les matins parce qu'on a ramené les manuels de français et de maths. Et voilà. Donc, les journées, elles sont très différentes les unes des autres, mais toujours avec le même rythme d'organisation.
Qui fait l'école ?
Nous deux. On rigole à dire que je suis la directrice et qu'il est le professeur principal parce que je fais le programme. Toutes les semaines, les enfants savent exactement ce qu'ils vont avoir pour la semaine. Ils ont un programme sur 7 jours. Ils ont tous les deux bien pris le pli en CM1 et en grande section pour faire ça tous les matins.
T'es passée par un organisme ou tu fais ça toute seule ?
Non, on fait ça complètement tout seul. On passera peut-être par un organisme au collège, voire au lycée, mais aujourd'hui, CM1, grande section, on gère encore.
J'imagine que dès qu'on est parent d'enfants qui sont scolarisés, c'est quand même toujours ce sujet de l'école et qu'est-ce qu'on fait. Et beaucoup, après le Covid, n'ont pas du tout envie d'être prof, se sont rendus compte que c'était un métier. En tout cas, il fallait une patience extraordinaire que je pense que tu as. Mais pourquoi tu as choisi cette formule plutôt que plein d'autres comme le CNED ou comme j'imagine d'autres formules sur Internet ou d'autres trucs ?
Alors le CNED, on a regardé, le CNED c'est assez contraignant parce qu'il faut des rendez-vous à des jours et heures fixes avec un professeur. Nous, on ne sait jamais quand on aura du Wi-Fi, Starlink n'est pas encore présent en Afrique du Sud, en Afrique australe, et du coup, Être contraint à un rendez-vous pour un professeur en CM1, ça nous enlevait toute forme de liberté, mmh. qui est la raison numéro un de notre voyage. Donc aujourd'hui, on a décidé de prendre des manuels. Nos enfants, enfin notre fils en CM1, il a un manuel de français, un manuel de maths. Et après, il a des BD, des supports pour tout ce qui est histoire. Et l'anglais, ça pour le coup, c'est au quotidien, dans la vie, mais aussi dans le camion. Il a aussi des cours d'anglais. Donc voilà, la principale raison pour laquelle on n'a pas fait le CNED, c'est la contrainte de rendez-vous. Maintenant, on y arrivera peut-être un jour si on se pose quelque part, si on a un très bon Wi-Fi, si voilà. Aujourd'hui, on n'en a pas ressenti le besoin, on s'en sort encore. Après, tu disais l'école, faut de la patience. Oui, il en faut, mais je pense que surtout, et c'est ce que je disais avant, je pense qu'il faut surtout de l'organisation. Il faut expliquer aux enfants qu'en fait, c'est leur routine et c'est comme ça. Et donc, nous, on le voit bien, quand on leur donne très rarement, mais quand ils ont une semaine de vacances, s'y remettre, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Alors que si on est dans le rythme, 6 jours sur 7, ils ne savent jamais quel jour ils n'auront pas école. C'est plutôt nous qui allons décider si on veut faire un safari à 5h du mat, ils n'auront pas école. Puisqu'en revanche, il y a une chose, c'est qu'ils n'ont école que le matin. Si on n'a pas fait école le matin, on ne fait pas école l'après-midi.
D'accord.
La concentration, le rythme pour le petit en grande section, il est souvent plus fatigué, grognon. L'école, c'est le matin ou pas. Ce rythme, cette routine fait que l'enfant s'y met volontiers et que du coup, en fait, c'est même pas de la patience, c'est de l'organisation pour moi plus.
Et les livres, tu fais comment? Tu te fais livrer des livres de temps en temps? Parce que j'imagine qu'on bouquine beaucoup aussi quand on est sur la route et tout.
On bouquine pas mal et moi, je suis contre les liseuses. Donc, c'est l'autre avantage d'avoir un gros camion. C'est que du coup, on a de la place et qu'on emmène des livres, pour eux comme pour nous d'ailleurs. Nous, encore une fois, on n'est pas en vacances et on n'est pas sur un projet d'un an. Donc, en fait, pour le moment, depuis qu'on est parti, on est toujours revenu une ou deux fois par an en France. Donc, ben, on restocke et on repart avec. Et les livres, on les laisse. On a laissé des livres dans des alliances françaises. On échange des livres avec d'autres voyageurs, puisque mine de rien, on en croise pas mal aussi. Donc, voilà, les livres, ça se gère.
Je voudrais qu'on parle un peu donc, de l'Afrique. Donc, vous avez fait quoi comme pays depuis que tu es arrivé sur le continent africain?
Alors, pour le moment, on n'est qu'en Afrique australe. On a fait l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique.
Tu as préféré quel pays?
La Namibie. Parce que voilà, je sais même pas quoi dire, tellement c'est extraordinaire, pour la diversité des paysages, pour la gentillesse des gens, pour le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, c'est assez agréable en voyage aussi, le fait qu'on puisse faire du camping sauvage partout, parce qu'il n'y a aucun problème de sécurité, parce qu'il y a des animaux, donc on a à la fois fait les dunes à Sandwich Harbor, Etosha, des météorites à Grootfontein, enfin voilà. La diversité de la Namibie est assez incroyable.
Tu rencontres les gens un peu dans ton camion? Tu rencontres les locaux?
Tous les jours, d'abord, parce qu'à chaque fois qu'on traverse un village, on va avoir des coucous, des pouces levés, on va s'arrêter, on va discuter, parce que les enfants sont un super passeport à la rencontre et qu'eux ont aussi besoin d'échanges et de rencontres. Donc on s'arrête et ne serait-ce que déjeuner dans un boui-boui, on se dit souvent qu'on va s'arrêter un quart d'heure, puis ça dure 3 heures parce qu'on se met à discuter avec plein de gens. Donc oui, quasi tous les jours, on arrive à rencontrer des gens. Et sinon, en fonction de là où on dort, on a différentes options. Soit on fait donc du camping sauvage. Donc là, souvent, on est au milieu de nulle part et on ne rencontre pas forcément grand monde. Sauf qu'en Afrique, même quand on a l'impression qu'il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Donc en fait, on rencontre quand même du monde. En Namibie, c'était époustouflant. Il y a des endroits où on n'avait pas croisé une voiture pendant 300 km. On s'arrête, puis tout d'un coup, il y avait 10 personnes autour du camion. On ne comprenait pas d'où ils arrivaient. Et puis sinon, on s'arrête dans des campings. Et là, ben, il y a tout le temps des voyageurs, d'autres familles, si c'est les vacances scolaires. Les Sudaf, ils voyagent énormément en Afrique australe. Donc à chaque vacances scolaires, on croisait toujours des familles. Et donc voilà, c'est soit des familles de voyageurs, soit des locaux, soit des familles de locaux, entre guillemets, d'Afrique australe qui voyagent. Tous les jours, il y a des rencontres.
Les gens, ils veulent monter dans ton camion pour voir commencer ou pas?
Souvent. Et souvent, on répond que c'est notre maison. Mmh. Donc, on ne laisse pas souvent monter. Aux douanes, c'est souvent un atout. On rigole avec Guillaume, on est good cop, bad cop. Les douanes veulent toujours monter et lui répond toujours « Ah non, ma femme, il faut enlever ses chaussures parce que c'est sa maison. » Et souvent, ils ont des grosses godillots de douaniers, ça les saoule. Donc, ils disent « Bon, c'est bon, on ne va pas visiter. » Donc, voilà. Mais oui, les gens veulent monter.
Moi, j'aurais envie de monter, en tout cas, si j'étais dans ton camion.
Il est à Johannesburg, viens.
Tu peux venir. Vous êtes fait peur déjà ou pas? Sur la route, t'as eu peur?
Alors, sur la route, oui, parce que moi, j'ai le vertige, donc j'ai peur du vide. Donc, le fait d'être déjà à 3 mètres de haut à mon siège, parfois, quand je regarde sur la droite et que les routes sont un peu étroites, oui, je peux avoir peur. Après, en termes de sécurité pour nous, on n'a jamais eu peur, mais on est très instinctif. On voyageait déjà beaucoup avant, donc on connaît les règles de base. On roule jamais de nuit. On fait attention dans les grandes villes, mais c'est des règles de base. on s'est jamais fait peur. Mais encore une fois, on est prudent. Enfin, on est instinctif et prudent.
Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé au début, mais vous avez fait aussi des stages de secourisme, etc., pour être prêt?
Alors, on l'a fait parce que ça me rassurait. Objectivement, ça sert à rien. Parce que je pense qu'on a tout oublié et je pense que le jour J, face, si un de mes... Ben, typiquement, mon fils Gustave s'est cassé le poignet en tombant du camion. Mon stage de secourisme a servi absolument à rien. J'ai un hôpital dans le camion avec des attelles, des bandes, des trucs. Je savais pas quoi mettre, je savais pas comment m'en servir. On a posé son bras sur un coussin et on est parti à la médiclinique la plus proche. Donc,
voilà. Ouais. Donc, tu l'as fait, mais...
Mais ça rassure et on nous a donné quelques bons conseils, mais je suis pas sûre qu'on arriverait à les appliquer.
Si vraiment t'as une galère, qu'est-ce que tu fais?
Bah, le plan, déjà, c'est qu'on a une assurance voyage, donc je
D'accord.
pense qu'on les appelle. On appelle aussi notre pédiatre à Paris, qui est un peu notre ange gardien, qui est toujours au bout du fil pour nous rassurer ou nous orienter sur comment gérer une maladie. Enfin, en fonction de la galère, en fonction de ce qui se passe, l'Afrique du Sud, la Namibie, tant qu'on est en Afrique australe, l'Afrique du Sud, la Namibie ont quand même des hôpitaux bien organisés, donc on se ferait rapatrier dans un des deux pays. Je resterai certainement pas au Botswana ou au Zimbabwe, même pour réparer un bras cassé.
Le choix de l'assurance, c'est un vrai sujet avant de partir comme ça, vivre loin. Quand on parlait de tes préparatifs, typiquement, et un matin, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on fait pour
ah bah,
s'assurer
tout? On a fait une grosse étude de marché du choix de l'assurance. Je vais pas nous donner de nom, mais on avait choisi une assurance en se disant, c'est une petite assurance, c'est bien, on va aller avec eux. Et quand Gustave est tombé, ils n'ont pas été complètement à la hauteur de la gestion. Donc là, on vient de changer d'assurance pour une plus grosse, plus connue. Mais tout le monde nous a fait des retours que finalement, la plus grosse, plus connue, c'était peut-être bien aussi.
C'était bien. Tu t'es fait aussi Air France avec les vaccins pour tout le monde, selon tous les pays que tu pouvais faire et tout.
Bien sûr. On a passé, je crois que c'est 4 samedis de suite au centre Air France de vaccination pour vacciner tout le monde de tout. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est de prendre de la Malarone pour le palu. Parce que sinon, il faudrait qu'on en prenne vraiment à long terme, que les enfants sont petits, que moi, les effets secondaires de la Malarone. Bon, donc on a des tests anti-palu et du Coartem. Si un de nous chope le palu, on a les médicaments qu'il faut. Maintenant, c'est la maladie la mieux soignée en Afrique. Donc voilà,
D'accord.
c'est pas non
ouais.
plus une grosse crainte, le palu.
Mais ça, c'est ton choix, ouais, que vous n'avez pas fait ça.
Bien
ouais.
sûr.
Okay. Comment toi, même dans les grandes lignes, t'as organisé ta vie pour pouvoir te dire un jour, je pars et ciao et... au revoir mon boulot, au revoir tout le monde. Et je pars l'esprit léger, parce que j'ai l'impression que tu as quand même l'esprit léger, parce que tu as bien organisé ton truc.
Clairement, encore une fois, on a mis 10 ans à l'organiser, donc ce n'est pas une décision du jour au lendemain. Et donc, on a construit notre vie professionnelle pour nous permettre de voyager. Donc, on a investi dans de l'immobilier suite à la vente de sa boîte de conseil de mon mari. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des revenus qui nous permettent de voyager.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce mode de vie nomade?
Ah bah, la liberté. Oui, clairement, on le fait pour la liberté que ça nous procure, de on est bien quelque part, on y reste, on n'est pas bien, on bouge, on rencontre des gens formidables, on va s'arrêter plus longtemps que prévu. Moi, j'ai une passion pour les parcs animaliers, je ne me lasse pas, et mes enfants non plus, d'ailleurs, je trouve que c'est une vraie richesse. On a rencontré des familles qui nous disaient « Oh ben non, ce parc-là, on va pas le faire, on en a déjà fait deux ». Nous, on les fait tous, et on est tous surexcités à 5h30 du matin à partir faire notre game drive et essayer de voir un guépard, puisque c'est le seul animal qu'on n'ait pas encore vu. La grosse frustration de Gustave, qui voilà, il nous manque celui-là. Donc oui, et puis cette proximité avec les enfants, les voir grandir, j'entends souvent mes copines dire « Oh là là, je ne vois pas les enfants grandir ben, ». Moi, pour le coup, je les vois tous les jours et je trouve que c'est hyper enrichissant et c'est vraiment, comme pour eux comme pour nous d'ailleurs, je pense que ça va dans les deux sens. Et c'est vraiment ce qu'on voulait réaliser, être tous les quatre. Et oui, cette ouverture sur le monde. Moi, j'ai grandi à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé enfant. Mon mari a fait un tour du monde quand il avait 20 ans. Il est parti tout seul avec son sac à dos. Donc, c'était vraiment dans notre ADN à tous les deux. Et donc, on veut le transmettre. Il y a aussi cette notion de transmission, de valeur, d'ouverture, de différence. On parlait avec quelqu'un il y a quelques jours qui nous disait « Oh là là, toutes ces règles en France, c'est très contraignant, tout le monde veut constamment les contourner. Ben » Nous, en Afrique, ce qui nous frappe, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et pourtant, ça fonctionne et les gens se respectent et se disent bonjour et se sourient. Donc voilà, moi, j'aime bien l'idée que mes enfants voient un peu des deux.
Alors je me fais l'avocat du diable, hein, parce que c'est vraiment la vie de mes rêves, ce que tu fais, etc. Mais j'entends ce que les gens peuvent dire autour de moi. Tu vois les réactions qu'ils peuvent avoir. Tu crois que tes enfants, ils vont se réadapter à une vie normale, je ne sais pas ce qu'est la normalité, mais une vie classique, ou de toute façon, tu t'en fous parce qu'en fait, ils dessineront la vie qu'ils ont envie de dessiner. Et ça se trouve, ils auront envie d'être sur la route comme toi ou tout à fait autre chose.
Moi, je pense que les enfants, ils ont une grosse capacité d'adaptation qu'on sous-estime. Enfin, on l'a vu sur des épreuves qu'on a pu avoir, enfin, qui n'étaient même pas des épreuves, mais on a crevé un pneu au milieu d'un parc animalier. Il y avait personne n'y était rentré depuis 48 heures. Moi, j'avoue, j'ai eu un petit moment de panique. J'ai été très rassurée parce qu'on a un téléphone satellite. On parlait de sécurité. Et ça aussi, ça me rassure. On a un téléphone satellite. Donc, où qu'on soit, on peut appeler au secours. Bon, on a attendu les secours pendant 7 heures. Les enfants, ça n'avait aucun problème pour eux. Ils étaient très, très cool. Moi, un tout petit peu moins. Mais eux, sachant qu'on ne pouvait absolument pas sortir du camion, qu'au coucher du soleil, on a 50 éléphants qui sont passés à 1 mètre du camion. Mais eux, ils étaient, ils s'adaptent à tout ça. Ils sont très cool. Après, je pense qu'il y a un âge, ils auront peut-être besoin de revenir à une vie plus sédentaire. Et on s'est toujours dit qu'on les écouterait, que c'est notre décision de voyager, mais qu'eux doivent avoir encore une fois les mêmes chances que les autres. Donc, il y a sûrement un âge où on se posera, quand notre aîné sera ado d'ici 3-4 ans, on se posera peut-être quelques mois par an pour qu'il ait les codes de son âge et de son adolescence. Mais on ne sait pas. Pour le moment, on ne se pose pas la question.
Tu te laisses porter, toi, en fait.
Complètement.
C'est génial. Et puis, ça se trouve, tu te poseras ailleurs. Enfin, c'est-à-dire, ton idée, c'est pas de dire on va rentrer à Paris et on va se poser qu'il fasse son lycée à Paris.
Ça, c'est la seule certitude qu'on a, c'est qu'on rentrera jamais à Paris parce qu'on a besoin de nature, on a besoin de sport, on a besoin d'extérieur. En revanche, on se posera. Mais tu as entièrement raison, ça sera peut-être même pas en France. On n'a aucune idée. Non.
Et vous étouffez pas trop tous les quatre ?
Non, parce que le monde est notre jardin, comme on aime dire. Donc, quand on étouffe, on sort, on fait des balades, on fait des randos, on est constamment dehors. Mon mari et mon fils aîné sont hyper sportifs. Gustave, il va sortir son ballon de foot, son ballon de rugby. Il y a trois gamins qui vont arriver. Il va partir pendant 2 heures jouer avec ses copains. Donc, non, on ne s'étouffe pas trop. Et on est aussi très cocons tous les quatre. On aime bien se faire des films tous les quatre. Donc, en fait, non, on ne s'étouffe pas. Et quand on s'étouffe, on se le dit. En fait, ça, c'est autre chose. C'est on s'écoute beaucoup et on écoute beaucoup les enfants. Et je pense qu'ils ont cette capacité aujourd'hui, de par notre mode de vie, de nous dire... j'ai besoin d'être un peu tout seul. Après, c'est aussi des tempéraments d'enfants. Mmh. Notre aîné, il le dira jamais, mais notre petit, il va se prendre son bouquin, se mettre dans son lit et on va pas le voir pendant 1 heure. Donc, en fait, chacun, le fait que chacun ait son espace, encore une fois, dans cette construction qu'on a faite, les enfants, ils sont sur des lits superposés, mais donc ils ont chacun leur cocon qui est leur lit. C'est pas grand, mais c'est leur cocon. Et donc, tout le monde a son espace, en fait. Et c'est le secret pour pas se taper dessus.
Et les amis, ça te manque ?
Je suis désolée pour eux, mais pas tant que ça. Non, mais encore une fois, on a réussi à revenir assez régulièrement. Les amis à qui on a envie de donner des nouvelles et ou qui ont envie d'en prendre, on arrive toujours à se joindre. Aujourd'hui, c'est quand même la communication est quand même absolument hallucinante. On arrive à faire des FaceTime avec ceux qu'on a envie aussi souvent que possible. Et étonnamment, et en fait, en te le disant, ça me fait rire, c'est que les gens avec lesquels on fait le plus de FaceTime, c'est des voyageurs qu'on a rencontrés et qui sont rentrés. Finalement, nos amis parisiens, ils nous sollicitent pas tellement pour nous voir ou nous parler.
Tu t'es fait une nouvelle vie sur la route ?
On rencontre du monde sur la route, donc y a quand même un côté de rencontre et de sociable. Mais encore une fois, moi, j'étais très sociable, j'adorais sortir, faire des dîners et tout. Aujourd'hui, même quand je suis à Paris, j'ai pas forcément envie de voir grand monde. Et en voyage, on est bien tous les quatre. Les journées sont mine de rien fatigantes. Il y a quand même toute une logistique aussi, au-delà de la logistique classique d'une vie de famille, de faut les nourrir et faire l'école. Il y a aussi où est-ce qu'on va aller. On n'anticipe pas beaucoup où on va, on a les grandes lignes, mais quand même 3-4 jours avant, il faut qu'on regarde où est-ce qu'on va dormir, quelle route on va prendre. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc finalement, le soir, on est assez content de se mettre au lit avec un bon bouquin, pas très tard, pour profiter le lendemain matin.
C'est quoi le plus dur quand même dans cette vie ? Il y a des points négatifs, t'as l'impression ?
Aujourd'hui, non, parce qu'encore une fois, on l'a choisi, donc on ne la subit pas, on ne nous a rien imposé et c'était un long process de choix, donc très réfléchi. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas de gros points négatifs.
T'as l'impression que tes enfants, ça leur apporte quoi alors ? En plus de la vie que t'aurais pu leur offrir à Paris ou peu importe dans une ville classique ?
Ah, mes enfants, ça leur apporte 1000 choses. Ça leur apporte une ouverture d'esprit, une façon de voir le monde différente parce que les enfants réagissent pas pareil dans la cour de récré à Paris que dans la cour de récré en Namibie. En Namibie, on a scolarisé les enfants pendant une semaine, pendant quelques jours. C'était impressionnant. La facilité et l'aisance avec laquelle ils se sont fait des copains, ils jouaient dans la cour de récré avec un ballon ou avec une balle de tennis. Edgar, notre petit, qui était assez introverti dans son coin, il a fait qu'une demi-année de petite section à l'école et la maîtresse nous disait « il est toujours un peu dans son coin, il ne parle pas beaucoup ». Aujourd'hui, c'est un gamin, il rentre dans une pièce, il parle à tout le monde, il baragouine en anglais, il se débrouille et il se fait des copains sudaf qui sont encore une fois Les enfants qu'on rencontre le plus sont des Sudaf. La langue n'est absolument pas un problème. Ils discutent, ils font des dessins, ils font des jeux.
Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent que tu les élèves un peu à la marge du monde ?
Je dirais rien parce que j'ai le sentiment qu'on leur apporte la même chance qu'un enfant dans une école bien comme il faut, entre guillemets, en France, avec tellement plus de par leur ouverture d'esprit, de par leur découverte du monde. Notre fils de 9 ans, il sait vous mettre toutes les capitales de tous les pays d'Afrique australe. Bon, il ne sait pas mettre Lyon sur une carte, mais voilà. Donc, je pense qu'on leur apporte des choses différentes. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas, c'est le choix que nous, on a fait pour eux. Et donc, voilà, en fait, je dis rien.
Les rencontres qui vous ont le plus marqué ?
Il y a différents types de rencontres sur la route. Je ne vais pas parler des voyageurs, je vais parler des peuples. Clairement, c'est le peuple San en Namibie, chez qui on est resté pareil. Tout à l'heure, je parlais de liberté. On était arrivé, on devait rester une nuit dans un endroit, une ferme qui accueillait des San. Et puis en fait, en 2 heures, on s'est tous les 4 sentis tellement bien qu'on a dit on reste, on est resté 8 jours. Le fait de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir de rendez-vous, ben on fait ce qu'on veut. Et on a passé 8 jours complètement dingues avec ce peuple, un peuple nomade qui a été poussé de partout parce que des histoires internes au pays. Un peuple qui était donc nomade et chasseur, on leur a interdit de chasser, on les a sédentarisés dans des régions du Botswana et de la Namibie. C'était une rencontre extraordinaire de valeurs, de partage, d'écoute. Ils nous ont appris plein de choses sur leurs coutumes. On a fait 1000 choses avec eux, des colliers en œufs d'autruche. Les enfants ont fait des arcs et des flèches. Ils ont été chasser le rhino. Ils n'ont pas trouvé le rhino, mais il paraît qu'il n'était pas loin. Enfin, voilà. Et puis, des enfants qui venaient chez nous, du coup, ont déroulé la table. On a fait des molkis. On a fait des après-midi coloriage. Pour moi, un des meilleurs souvenirs de cette semaine, ça a été un soir où on leur a projeté « Les dieux sont tombés sur la tête », qui sont leur peuple.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, génial.
Et c'était dingue parce qu'en fait, moi, je le connais assez bien, ce film. Et ils rigolaient avant moi parce qu'ils comprenaient le langage d'éthique qui est le langage San. Et que ce soit les enfants ou le grand-père de 80 ans, tout le monde pleurait de rire. Et ça, c'était vraiment génial.
Un souvenir extraordinaire.
Ouais, ça, c'était vraiment extraordinaire.
Ton camion, tu peux le garer n'importe où ? Tu dois prévoir où tu vas dormir, justement parce qu'il est plus gros que les autres, etc. Ou tu peux te garer n'importe où ?
Non, on prévoit pour des questions de sécurité, parce D'accord. qu'on ne se gare pas n'importe où. Un pays comme la Namibie, comme ce n'est pas très peuplé et que la sécurité est quand même très cool, on a fait pas mal de camping sauvage sur des bords de route, dans des villages, un peu partout. Après, il y a des pays où c'est plus difficile. Typiquement, le Botswana, tu fais moins de camping sauvage parce qu'il y a plus de monde, parce que Botswana a un attrait énorme, c'est que 100% des animaux sont en liberté. Mais du coup, tu es sur n'importe quelle route, tu as des éléphants et des girafes. Donc le soir, bah, tu ne dis pas à tes enfants d'aller jouer dehors parce que tu n'es pas à l'abri, qu'il n'y ait pas un lion sous ton camion. Donc là, on était un peu plus organisés, on était dans des campsites, mais on ne les réservait pas. En fait, à part pendant les vacances des Sud-Africains où il y a beaucoup plus de monde, tu réserves
pas. C'est OK.
Pas.
Ouais, tu arrives dans ton camping et on te donne.
Ouais.
Je suis sûre que tu étonnes les gens ou bien ils sont habitués maintenant dans ces pays-là à avoir des camions comme le tien ?
Non, ils ne sont pas habitués. On étonne ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, l'accueil est toujours hyper
sympa. Non, mais c'est toujours un début de discussion aussi, parce qu'on doit parler de son camion,
et surtout avec les Sudaf, qui sont vraiment des grands voyageurs en tente de toit ou en trailer. Eux, ils ont souvent un 4x4 avec derrière un trailer qui se déplie dans tous les sens. Ça monte, ça se tire sur les côtés. Ils ont leur cuisine, leur lit. Ça ouvre à la discussion. On a d'ailleurs fait une rencontre formidable dans le Kalahari, qui est un parc transfrontalier Botswana, Namibie, Afrique du Sud. On était pendant les vacances des Sudaf, donc là, on avait réservé, parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas rentrer dans le parc à moins d'avoir des réservations.
D'accord.
Et c'est un parc où on est resté 8 jours, donc c'est vraiment très, très grand. Et on a rencontré 3 familles de Sudaf qui sont devenues des amis. On est retourné au Cap les voir. Ils ont des enfants de l'âge des nôtres. Et quand on est arrivé le premier soir sur le campsite, c'était 3 couples et t'as 2 des papas qui sont venus et qui ont commencé à nous tchatcher, qui ont commencé à discuter avec Guillaume de la taille des pneus, des écrous, etc. Et puis voilà, c'était parti, on est resté 8 jours avec eux.
Mais là, en Afrique, je comprends qu'avec ton camion, c'est OK et tout. Mais même quand tu étais en Turquie ou en Grèce, etc. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé ton camp, tu es sorti, tu fais ton apéro, tu peux pas repartir acheter du lait ou repartir voir le petit truc.
Ça, c'est sûr. Alors, Italie, Grèce, Turquie, on était entre janvier et mai. Donc, on était hors saison. En Grèce, on a fait que du camping sauvage à part à Athènes, où on avait réservé un camping au pied de l'Acropole. C'est quand même génial, Athènes, pour ça. Là, on s'est fait une petite frayeur. Quand on a dû repartir du camping, Google nous a fait prendre à gauche là où on aurait dû prendre à droite. La rue était sacrément étroite.
Ce Google n'a pas l'option.
Non, il n'a pas l'option camion. Mais donc voilà, en Grèce, on a fait 100% de camping sauvage. C'était complètement dingue partout. En Turquie, on en a fait beaucoup aussi. Après, quand on est en camping sauvage, on ne sort pas forcément la table, les chaises et on s'installe. Bah parce que camping sauvage, un, on fait discret. Deux, s'il faut repartir, il ne faut pas que tout soit dehors. On parlait de sécurité dans les règles de base. Quand on est en camping sauvage, notre camion est toujours garé, né vers la sortie, qu'on n'est pas à manœuvrer si jamais il y a un souci. On a ce qu'on appelle un passage cabine. On passe de notre maison à la cabine de conduite sans sortir.
D'accord.
Voilà, il y a quand même des petites choses qu'on applique pour s'assurer une certaine sécurité. Après, il y a des plages en Grèce qui étaient dingues. Là, on s'est posé 4-5 jours, on sortait tout et on se sentait très en sécurité. Donc voilà, il y a aussi un moment où tu lâches un peu la vigilance, mais en règle générale, en sauvage, on est vigilant.
Quand tu conduis, tes enfants, ils sont derrière ou ils sont dans le camion avec toi ? Enfin,
non.
Dans la cellule de conduite ?
Ils sont dans la cellule de conduite
vous
avec
nous. Vous êtes tous les quatre devant,
oui.
OK.
Oui, il est homologué 6 places, la
D'accord.
cabine de conduite.
Okay.
Donc, tu peux venir sans enfant.
Je peux venir. Je viens juste un petit tour. Et comment tu t'organises pour, évidemment, te nourrir, mais aussi pour l'eau potable, etc. Ou même l'essence, d'ailleurs, parce que quand tu es en Namibie, moi, je suis allée que 3 semaines en Namibie, hein, je connais peu par rapport à toi, mais je me souviens que quand on a loué notre camion, on nous a vraiment dit « prendre l'essence ici, parce qu'après, pendant 500 km, t'en as pas ». Et bon, nous, on avait petit réservoir, mais c'était un sujet où on pouvait trouver des supermarchés et où on pouvait trouver de l'essence.
Exactement, mais tu l'as dit toi-même, nous, on a construit le camion pour être très autonome le plus longtemps possible. Donc, on a 800 litres de diesel et 800 litres d'eau. Donc, en fait, on tient longtemps. Mais c'est quand même un sujet sur lequel on est vigilant. Typiquement, on ne peut pas se permettre de manquer ni de l'un ni de l'autre. Donc, on fait attention, mais on a de la marge. On tient 15 jours. Avec l'eau, typiquement, si on fait un peu attention, on tient 15 jours. Donc,
et l'eau, c'est que de l'eau potable qu'il y a dans ton camion ?
Non, on a des filtres. Oui, on peut prendre de l'eau n'importe où, sauf l'eau de mer.
D'accord.
Et on filtre l'eau pour la rendre potable.
Ouah, c'est dingue.
Ouais, ça,
donc
c'était...
là, tu te mets à n'importe quel robinet. Où tu vas ? C'est dans les campings que tu peux prendre de l'eau comme ça ?
Ouais, ça dépend des pays complètement. En Turquie, il y a un truc qu'on trouve absolument formidable, c'est qu'il y a des fontaines absolument partout et tu te sers. Et un jour, on était en train de se servir. Nous, ça prend toujours un peu
toi,
de temps.
Toi, tu te sers de 800 litres. Ça, tu remplis pas
donc,
une gourde.
Donc, on discute et il y a le propriétaire de la ferme qui est arrivé et on l'a beaucoup remercié. On lui a dit qu'on pouvait prendre moins, mais que ça pouvait être long. Et il a dit « Ah non, mais nous, c'est un honneur que vous preniez de l'eau ». Donc, on lui a dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Et il dit « En fait, les gens qui ont de l'eau mettent des fontaines sur la rue pour que le reste de la population puisse venir se servir en mémoire des morts de la famille. » Et donc, en fait, lui, il avait créé cette fontaine pour sa maman et il nous disait « Mais prenez 800 litres, vous rendez hommage à ma maman. » Donc, voilà. Donc, ça, c'était en Turquie. Après, en Afrique, l'eau, c'est dans les stations essence, dans les campings.
Et c'est facile.
Écoute, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de galère d'eau. Non. Mais en fait, on s'organise aussi. En Namibie, il y a de l'eau que dans les campings, typiquement. Donc, on va s'arranger pour être dans un camping le jour où on n'a presque plus d'eau. On va plutôt s'organiser comme ça.
Et tu te douches dans ton camion ou tu vas au bloc sanitaire quand
non, je me douche dans mon camion.
Tu ne sors pas de la maison.
Je sors exactement. Je sors pas de la maison.
Donc, galère de mécanique, je voulais te demander, mais en fait, tu m'as dit, vous avez crevé une fois, ça, c'était un peu la galère d'avoir attendu longtemps.
On a crevé 6 fois.
Ah, 6 fois.
Donc, non, la crevaison, c'est notre plus grosse galère, mais c'est pas mécanique.
Mais avec quoi tu crèves l'épaisseur de ces roues, là ?
Une souche d'arbre morte par terre, un clou sur un parking de campsite. On a crevé, on a sorti un clou qui devait faire 10 cm qui était dans le pneu. Non, les crevaisons, c'est nos plus grosses galères. Là, notre camion est à Johannesburg en storage, on dit, on a reçu une photo ce matin et il a un pneu à plat. Donc, ça s'appelle une fuite lente. Et donc, voilà.
On doit aller racheter des roues. J'imagine que tu en as de secours. Ça se passe comment ?
Alors, j'ai une roue de secours.
Ouais.
Là, j'en ai plus parce qu'on avait aussi crevé en Eswatini juste avant de rentrer. Donc, on n'avait plus de roue de secours. C'était dans les choses à faire quand on retournait. Et là, maintenant, on va en avoir deux. Non, souvent, ça se répare. Donc, ils mettent des patchs et tu peux réparer le pneu. Après, quand tu crèves sur une souche, comme on a fait à Kodoum où on a attendu plusieurs heures les secours. Là, tu peux rien faire parce que vraiment, il a explosé le pneu. Donc là, tu mets ta roue de secours, puis tu vas en acheter une nouvelle.
Mais tu vas en acheter une nouvelle. T'es marrante, toi. Ouais. T'es au milieu du Zimbabwe. Comment
oui,
tu vas t'acheter
encore une
nouvelle
fois,
roue?
T'as le temps, donc c'est pas grave. Tu roules en faisant attention jusqu'à la prochaine grande ville. Et puis finalement, tu trouves. Et puis, il y a une solidarité absolument incroyable dans tous ces pays-là et dans cet univers de voyageurs. On s'est retrouvés au Botswana, à Mône, avec deux roues crevées. Donc, on était un peu embêtés. Il fallait absolument en trouver d'autres parce que, pour le coup, moi, je suis très, très prudente. Donc, je ne veux pas trop qu'on roule quand on n'a pas notre roue de secours. Et on a appelé une famille qu'on avait rencontrée en Namibie. Lui, il a une société de camions. Il nous a dit, mais pas de problème. Moi, je vous mets deux pneus, puis je vous l'envoie dans la bande de Caprivi. C'est pas très loin du Botswana. Vous pouvez aller les récupérer. Donc, en fait, voilà, il y a toujours des solutions. Alors, il faut avoir un peu de temps. Ça fait 2 ans qu'on y est, donc on a aussi rencontré du monde et on garde précieusement tous ces contacts de nos petits anges gardiens un peu partout, des locaux. Mais en fait, il y a toujours une solution.
T'as changé, toi, depuis 2 ans et demi?
Ah oui. Ben, moi, j'étais très, très organisée, très peu. J'aimais pas beaucoup le changement. Maintenant, quand il n'y a pas de changement, je m'ennuie. Donc, en fait, voilà, je pense que là, j'ai beaucoup changé là-dessus. Pour moi, le plus gros changement, c'est encore une fois cette liberté que le temps n'est pas de prise, détend beaucoup. En fait, c'est pas grave. Dès que je suis ici, je stresse. On a tout le temps des rendez-vous, il faut courir, le métro a un problème, les enfants sont malades. Non, mais en fait, là-bas, c'est pas grave.
En fait, c'est le plus grand luxe que tu t'es offert, c'est ce temps.
Ah, mais ça, c'est sûr et certain. La liberté et le temps sont les deux choses qui font qu'aujourd'hui, je pense, on est complètement épanouis tous les quatre parce qu'en fait, il n'y a plus aucun stress. Alors, il y a des stress différents, évidemment. Il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'essence. Mais entre guillemets, ça se gère très bien.
Oui. Et tu te dis que vous allez faire quoi, alors, après? J'ai compris que tu n'avais pas de plan. Mais là, si tu dis dans les 4 années à venir, en fait, on va encore visiter l'Afrique pendant 4 ans, ou en fait, on va avoir envie d'autre chose et finalement, on va aller en Asie ou en Amérique, comme tu disais?
Alors, on va avoir envie d'autre chose, c'est sûr. Encore une fois, il faut s'adapter. Le plan, c'était de remonter vers la Tanzanie et d'envoyer en bateau à Oman et de rentrer par la terre. La situation au Moyen-Orient fait qu'on va peut-être changer nos plans en mer Rouge, puisqu'il y a les outils aussi qui font que les bateaux, maintenant, et le canal de Suez qui a fermé. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes politiques qui font qu'on ne pourra sans doute pas faire ça. Donc là, on est en train de se dire qu'on va faire une boucle en fait en Afrique australe. On va remonter le Mozambique, parce qu'on a vraiment beaucoup aimé le Mozambique. Et s'il y a quelque chose qui est une contrainte dans notre quotidien, c'est les durées de visa. Au Mozambique, on n'a que 30 jours de visa, ce qui était très frustrant parce qu'on a adoré ce pays. Donc là, le fait qu'on soit rentré en France et qu'on retourne, on va pouvoir reprendre un peu de visa. Donc je pense qu'on va refaire le Mozambique et après, on va repartir Malawi, Zambie, Angola. Et on se dit qu'on retournera en Namibie, d'abord parce que j'ai adoré, même si on y a déjà passé 6 mois, on y repassera peut-être un petit peu de temps. Et après, on enverra le camion en bateau en Amérique du Sud.
Donc, tu vas descendre jusqu'à Johannesburg, jusqu'au Cap?
Non, on va s'arrêter à Walvis Bay, en Namibie.
Ah, et ça part de là. Ouais, tu peux partir de là-bas.
Ouais, tu peux partir.
Et donc là, tu l'envoies en Amérique du Sud?
Ouais. Et là, j'ai aucune idée.
Bah, t'as bien.
Là, on verra. Là, c'est.
Et après, t'es là-bas et tes enfants apprennent l'espagnol, quoi.
Exactement.
Autre chose.
Exactement. Ah, ils apprennent l'espagnol, ils feront du kite à Jerry, ils iront monter la cordillère des Andes, et puis après, on verra.
C'est quoi vos 4 meilleurs souvenirs?
Ça, c'est marrant comme question. On en parlait avec les enfants il n'y a pas longtemps. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on a tous les 4 le même 3 meilleurs souvenirs. Donc, j'en ai un peu parlé. C'est notre semaine chez les San. Je pense que vraiment tous, on a été très, très marqués par ça.
Si nous, demain, on a envie d'y aller, je dis nous, moi, n'importe qui. On ne peut pas le faire, en fait, ça. Ce n'est pas quelque chose qui peut se prévoir.
Bien sûr, tu peux le faire, mais aucun tour opérateur te l'organisera.
Ouais.
Parce qu'en fait... D'abord, quand tu pars 2-3 semaines, donc tu passes pas 7 jours au même endroit, parce qu'on te dit que c'est du gâchis par rapport à ton voyage. Et si, ça peut se faire, puisque c'est là, nous, les San qu'on a rencontrés, c'est une ferme en Namibie qui a un campsite. Donc tu
d'accord,
peux tout à fait
dire...
D'accord,
tu avais booké ton campsite et en fait,
exactement,
ils là.
On n'avait rien booké du tout, mais on était arrivés pour une nuit avant d'aller vers un endroit plus touristique de la Namibie, que sont les White Lady Paintings au centre de la Namibie. Et en fait, ben voilà, on s'est arrêté là sur le chemin, c'était une étape et on y restait 7 jours. Donc oui, tu peux tout à fait le faire, mais ce n'est pas dans l'esprit d'un voyage organisé, tu ne t'arrêtes pas 7 jours
d'accord.
En fait. Donc,
quand tu dis justement que tu prépares, toi, tu as quoi? Tu es parti avec des guides de voyage, des cartes ou tu fais tout sur Internet?
Nous, on fait beaucoup sur Internet, on fait beaucoup en échange avec d'autres voyageurs. Il y a une application absolument géniale qui s'appelle Polar Step, où tu mets ton itinéraire de voyage. Et donc, on se les échange entre voyageurs, nos polar steppes. Et donc, tu vois la carte et le chemin que les uns et les autres ont fait. Et certains s'en servent comme journal. Donc, ils racontent un peu ce qu'ils ont fait à chaque étape. Donc ça, on s'en sert beaucoup. Après, on a un guide, on a un Lonely Afrique australe qu'on feuillette de temps en temps. Mais finalement, les gros endroits, tu les connais. Hein. Tu veux aller au Vic Falls, tu veux aller au Kruger Park, tu veux aller à Etosha. Donc voilà, donc on fait les classiques du tourisme, on le fait juste beaucoup plus lentement en fait. Un autre souvenir très fort pour tout le monde, c'est le parc du Kalahari dont j'ai un peu parlé. D'abord parce que c'était notre premier gros parc animalier, qu'on a passé un séjour complètement dingue, épuisant, parce que tu te lèves à 5h du mat tous les matins, la grille ouvre à 5h30. Là, pour le coup, tu es obligé d'être en campsite, tu fais pas du tout de camping sauvage, mais tu as toutes les voitures qui partent chercher les animaux. Tu passes ta journée à rouler. Nous, on a cette chance énorme, mais encore une fois, c'est grâce à ce camion, c'est que nous, généralement, on part à 5h30, on va se poser au premier point d'eau et puis on prépare le petit-déj. Donc, on arrête le camion et on reste là. Et c'est comme ça qu'un jour, mon mari est en train de faire la vaisselle et moi de dire aux enfants, on va se mettre à l'école. Puis Guillaume fait « Oh, un léopard !» Et puis nous, on lui fait « Ouais, c'est bon, t'es pas drôle. » Puis il fait « Non, mais je suis sérieux, là, il y a un léopard. » Et donc, voilà, on était tout seuls. Toutes les voitures s'étaient impatientées parce qu'ils avaient attendu une demi-heure, tout le monde était parti. Nous, on était restés là. Donc, bon, on a kiffé ce léopard pendant une bonne demi-heure. C'est très, très peureux, un léopard. Donc, Guillaume a fait des photos, il s'est carapaté. Et puis après, on a fait l'école. Et puis après, on a vu les gnous, les zèbres, les impalas. Parce qu'on reste, on passe d'un point d'eau à l'autre, mais on passe nos journées dans le camion. Donc ça, c'est des journées fatigantes parce qu'on ne sort pas. Donc, mine de rien...
Ah oui, tu ne sors pas, tu as raison, tu ne t'arrêtes pas, quoi. Ouais.
Non, donc 13 mètres carrés, ce n'est pas grand quand tu passes toute la journée. Mais voilà, c'est tellement magique d'être là, à ouvrir les yeux et de voir tous ces animaux toute la journée que c'est pas grave. Et ça, c'était vraiment un super souvenir. Et en plus, on a rencontré donc, ces trois familles. Donc, le soir au campsite, on se retrouvait avec eux. Les enfants allaient à la piscine. On faisait des brailles, le fameux braille Sudaf. Tu fais ton barbecue et tu cuis des kilos et des kilos de viande. Les Sudaf à qui je disais, non, mais nous, 150 grammes, c'est bien. Ils m'ont regardé, genre, mais tu vas mourir de faim. J'étais là, non, ça va aller. Donc voilà. Donc après, c'est des grosses soirées. Et finalement, tout le monde est couché à 9h parce que le lendemain matin, tu te réveilles à 5h30 et tu repars. Donc ça, c'était un souvenir très riche et c'était notre premier safari. Et c'est vraiment, on a tous beaucoup apprécié ces jours-là. Après, moi, j'ai beaucoup aimé Chobe au Botswana. Parce que tous les animaux sont en liberté. Donc là aussi, tu t'aères pas beaucoup, tu sors pas tes enfants du camion, mais vraiment, tu as des animaux partout. Et Chobe, on s'est offert des expériences assez géniales de le faire de partout. On a fait un survol en hélico de l'Okavango, on a fait des croisières sur la rivière pour aller voir les animaux depuis l'eau, et on a fait un safari voiture avec un guide. Souvent, on privilégie d'être dans notre camion, mais là, on nous avait dit, c'est quand même pas mal d'être avec un guide parce que c'est un parc un peu difficile à circuler avec des passages très étroits, des branches très basses. Bref, on n'avait pas envie de galérer. Et donc, on a fait Chobe, vu d'en haut, dans l'eau, sur terre. Et ça, c'était vraiment, vraiment assez magique. On a vu six lions qui s'attaquaient à des buffles. C'est les buffles qu'on gagnait étonnamment. Moi, j'aurais espéré le contraire, mais bon. Donc voilà, ça, c'était vraiment une très belle expérience. Et après, une des dernières au Zimbabwe, on a été traquer les rhinos avec un ranger. Donc là aussi, c'est des activités organisées. On ne fait pas du tout ça tout seul. Mais on est parti avec un ranger marcher... dans une réserve, traquer des rhinos blancs et on s'est retrouvés à un mètre des rhinos blancs. J'avoue que moi, j'étais pas du tout rassurée. Mon mari, mort de rire, trouvait ça absolument génial. Et voilà, et mes enfants, ils étaient complètement estomaqués. À un moment, il y a un des rhinos qui s'est levé sur notre gauche. Il y a une vidéo où moi, je tire mes deux enfants tout près de moi. Et le guide qui fait « No, it's okay ». Je dis « Ouais, it's okay for you ».
It's okay, ouais. It's okay, vite fait.
Donc bon, mais voilà. Et ça, les enfants aussi. Le rhino, c'est vraiment leur grosse expérience de l'année. Les animaux, toujours, en fait. Beaucoup des souvenirs sont liés aux animaux. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi l'Afrique en premier versus d'autres pays, parce qu'à cet âge-là, tu t'émerveilles sur les animaux. Et en fait, il n'y a pas d'âge. Moi, je m'émerveille toujours. Donc,
Ouais, puis les enfants, ils sont magiques pour ça.
Ah, ouais.
T'es team écran ou pas écran, toi?
Ah non, alors moi je suis pas du tout écran, au grand désespoir de mes enfants. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas de liseuse. Tout le monde me dit, mais c'est tellement plus pratique. En fait, le côté pratique, je m'en fiche. Non, je suis team pas écran. On n'est pas non plus complètement psychorigide. Ils ont la Luni qui nous sauve et la flamme maintenant. Ça nous sauve quand même tous nos trajets. Mais c'est extra. Les enfants, les deux, moi, ils peuvent passer des heures à écouter des histoires. Et en plus, c'est éducatif puisqu'on leur a téléchargé tous les cours d'histoire, la préhistoire, etc. Bref, donc ça, c'est vraiment bien. Après, on a un iPad que les enfants aiment qualifier de leur iPad, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais c'est l'iPad sur lequel il y a Netflix, où on n'est pas contre. On se fait des soirées films. Donc ça, c'est voilà. Mais c'est aussi lié à un moment de partage et c'est généralement une soirée crêpe.
C'est dans ton lit, la soirée film, ou t'as un rétroprojecteur ?
Non, c'est l'iPad.
Ah, c'est sur l'iPad, c'est vous sur, le mettez
on
tous
met
les
l'iPad et on se met tous les quatre dans le carré et on se fait des câlins et on regarde un film.
Et tu cuisines quoi dans ton camion ?
Comme à la maison.
Tu peux tout faire.
Alors en Afrique du Sud, on peut tout faire parce que c'est l'Europe, donc les supermarchés, c'est très facile. En Namibie aussi, ça s'est un peu corsé, Botswana, Zimbabwe. Mais finalement, on trouvait presque tout entre des supermarchés, des marchés de rue. Là, on était au Mozambique à la saison des mangues. Je me suis gavée de mangues pendant un mois. Au Mozambique, il y avait aussi cette richesse de la pêche qui nous a manqué dans d'autres pays. En Namibie, on ne trouvait jamais de poissons. Et un jour, on nous a dit que c'est normal parce qu'en fait, les poissons, ils sont pêchés et envoyés en Chine. Donc, je trouvais ça très triste. Mais au Mozambique, on allait acheter les poissons aux pêcheurs qui revenaient. C'est comme à la maison.
T'as pensé un jour dans ta vie que t'allais vivre comme ça ?
Non, clairement pas. Je l'aurais pas fait avec n'importe qui non plus. Je pense que c'est aussi lié à
c'est
une
rencontre.
C'est votre rencontre
à bien
tous sûr,
les deux, quoi.
Bien sûr, c'est aussi une rencontre avec Guillaume. Son côté aventurier me rassure. Mon côté organisé doit le rassurer aussi. Donc, je pense qu'on est une bonne équipe pour ce type de voyage. Mais non, tu m'aurais posé la question il y a 15 ans, je t'aurais dit... ça m'aurait même limite paru un peu loufoque, je pense.
T'es pas en manque de confort ?
Ah mais j'ai un confort de dingue. Il nous arrive d'arriver sur des lodges ou des campsites où les gens nous disent « Oh là là, mes pauvres, je vous propose une chambre pour la nuit, mais on veut pas. » En fait, on n'a jamais dormi ailleurs que dans notre camion depuis qu'on est sur la route. Et ça nous a pas traversé l'esprit.
Tu peux m'emmener avec toi ?
Si tu veux. Johannesburg en ce moment. Prochaine étape, on refait un petit bout d'Afrique du Sud.
Merci beaucoup. Franchement, merci. C'était trop bien et je suis trop contente qu'on ait réussi à avoir toutes tes confidences.
Merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite, merci et à bientôt.